Il y en a un autre que je voudrais vous faire rencontrer là, c'est Jacob. Alors Jacob, il faut d'abord savoir ce que signifie son nom. Vous vous rappelez, il y a la pauvre Rebecca qui était stérile, alors Isaac a pris pour elle, et puis elle devient enceinte, elle a même des jumeaux. Et dans son ventre, les deux jumeaux se battent. Alors elle va consulter Dieu parce qu'elle dit, si c'est comme ça, à quoi bon vivre? Elle en a marre, la pauvre déjà. Et il y a deux nations en ton sein, deux peuples issus de toi. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. Jacob, Ésaü. Alors, le premier est sorti, il était roux tout entier comme un manteau de poil. C'est pour ça qu'on l'appelle Édom, Ésaü. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Jacob, Ekev, c'est le talon. Mais alors Jacob, ça veut dire le tordu. Aussi. Il faut aller voir dans Jérémie. Hein. Encore une fois, c'est très intéressant. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, là où ils en sont. Et Jacob, c'est un grand farceur. Et Jacob, alors, va devenir Nathanaël dans l'Évangile. Hein. Le vrai Israélite en qui il n'y a pas de tortuosité. Hein. De tortuosité. Et le vrai Nathanaël voit l'échelle. Vous vous rappelez? Dans l'Évangile de Saint Jean. Alors, dans Jérémie, vous avez... Le cœur est rusé plus que tout. C'est le mot akav qui est de la racine ein kouf bet qui est employé ici. Rusé plus que tout et pervers, qui peut le pénétrer? Moi, Dieu, je scrute le cœur, je sonde les reins. Il n'y a que Dieu qui peut voir les tortuosités de notre cœur. Les psychanalystes n'y réussissent pas. Et puis, pour changer un cœur, il faut réellement qu'une nouvelle création. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit. Rappelez le psaume de David, là, qui laisse la vérité balayer son cœur. Et oui, il y a des tas de passages très très durs ici sur le nom. Méfiez-vous de tout frère, car tout frère ne pense qu'à supplanter. Et il faudrait traduire jacobé. Tout frère ne pense qu'à jacobé. Oui, c'est un farceur. Alors vous rappelez l'histoire du plan de l'Antique, tout le monde connaît. Comment il a réussi à acheter le droit d'aînesse qu'avait Ésaü. Ésaü revient fatigué de la chasse, là. Jacob lui restait plutôt sous la tente, c'était le préféré de sa maman, mais Ésaü était chasseur. Alors il revient, est-ce qu'il s'appelle, parce qu'il s'appelle Jacob, qu'il m'a supplanté ces deux fois à la naissance et puis lors de l'histoire du plan de l'Antique. Alors Ésaü est pris d'une haine terrible contre Jacob et Rebecca conseille à Jacob de s'enfuir. Alors nous voici maintenant à Bethel, regardez par là. Jacob quitta Beersheba, il fait en sens inverse toute la route qu'avait faite Abraham, et partit pour Haran. Haran, c'est en Mésopotamie. Alors la Bible, encore une fois, ne dit pas par où il est passé, comment il a voyagé, il part, il arrive, elle nous aide à fixer notre attention sur le principal. Il arriva d'aventure, alors ici c'est beaucoup plus complexe, il se tapa contre, Vayivga Bam Makom, il se tapa sur le lieu. Et le mot lieu à Makom est répété 6 fois. Et on dit que c'est pour que la 7e fois on comprenne que Dieu est dans le lieu. Vous voyez, Dieu est dans le lieu, je ne savais pas, Beit El, la maison de Dieu. Il y passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, vous pouvez compter si vous voulez, Makom, c'est devenu un nom divin, l'a mis sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe, voici qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Vous voyez, voilà, Jacob quand il marchait, c'était un farceur, il faisait des plans dans la position verticale pour rouler tout le monde, il se couche et à son insu, heureusement qu'il y a des rêves pour nous rappeler la réalité, l'échelle se dresse. Vous voyez, sa pensée reprend une direction verticale.
Tu peux reprendre les plans verticaux.
Non, ça, il roulait tout le monde, il faisait des plans dans la dimension horizontale. Oui. Et alors, il se couche, là, pour passer la nuit, il met une pierre sous sa tête, hein, essayez, vous voyez, et il voit l'échelle qui se dresse. Elle était bien plantée en terre. Et c'est pour ça qu'elle peut monter très haut, son sommet atteignait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Et Dieu se tenait devant lui et dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à ta descendance, qui deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident, à l'Orient, septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai en ce pays, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Dieu est dans le lieu. si vous mettez Yahvé, vous ratez l'occasion de faire en français un jeu de mots encore plus intéressant qu'en hébreu. Dieu est dans le lieu, il n'y a qu'une lettre à changer. Et c'est ça qu'on va apprendre, c'est tout les pèlerinages. On s'étend sur le lieu, et puis Dieu est dans le lieu. Et puis quand on a fait ce recyclage là dans le vertical, on s'aperçoit que Dieu est partout. Et on est appelé dans le pointillé de l'existence à voir l'échelle de Jacob partout plantée. C'est ce que Nathanaël, le vrai israélite dans l'évangile, c'est à quoi il sera appelé par Jésus. Tu verras pas l'échelle partout plantée, le fils de l'homme au sommet. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Alors Jacob, il a encore quelques souvenirs de son catéchisme d'enfance. Il a fait une expérience bouleversante, il exprime comme il peut, avec les moyens du bord. Il prit la pierre qu'il avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l'huile à son sommet. Et à ce lieu, il donna le nom de Beit El, alors que la ville auparavant s'appelait Luz. Alors il fait un petit contrat avec Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Dieu sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. Tu me donnes tout, je te donne un petit dixième, ça va. Vous voyez, ça commence comme ça, la route du culte en esprit et en vérité. Si l'enfant prodigue avait attendu d'avoir la contrition parfaite, comme on en parle à certains catéchismes, il ne se serait jamais mis en route pour retourner vers son père. Il faut que la contrition imparfaite soit authentique. Vous voyez, sentez la différence? Mais il ne faut pas attendre d'être parfait pour se mettre en route, sans ça on ne fait jamais rien. Alors ensuite on dit que Jacob porta ses pieds. L'expression, alors on dit en général c'est les pieds qui nous portent, mais cette expérience était tellement bouleversante qu'il porte ses pieds. Alors il arrive comme ça en Mésopotamie, et puis on dit qu'il arrive tout de suite, qu'il arrive, et il arrive près d'un puits. Qu'est-ce qui se passe près d'un puits? Des histoires d'amour. Alors c'est là qu'il rencontre Rachel. Il devient éperdument amoureux de Rachel. Vous vous rappelez l'histoire des deux mariages de Jacob, là. Le matin, c'était pas Rachel, c'était Léa. Ici, il y a un proverbe local. En France, on dit « la nuit, tous les chats sont gris ». En hébreu, on dit « la nuit, toutes les Léas sont des Rachel ». Alors, il a fallu qu'il travaille 7 ans en plus pour avoir aussi Rachel. Alors, Rachel est la mieux aimée, Léa est moins aimée, et Dieu prend le parti de la moins aimée. Alors, Léa en chante coup sur coup, Ruben, Dieu a vu, Reuven, ma détresse. Dieu a entendu, Shimeon, Shema Israël, Shema, Malishma. Ensuite, Lévi, mon mari va commencer à s'intéresser à moi. Et puis ensuite, Yehuda, elle rend grâce, le Rodots. Yehudim, ça veut dire rendre grâce. Et puis, on vous lirait la naissance des patriarches, c'est un récit extrêmement pittoresque. Tenez, en traversant les tribus de Dan et de Nephtali, là, on reprendra ce récit. On ne peut pas tout lire. Alors, Jacob, qui est un malin, s'enrichit. Il faudrait des ingénieurs agronomes pour m'expliquer là comment il a fait pour que... Il dit tous les moutons tachetés, ça sera pour toi, tous les... Et puis il s'arrange pour que tous les moutons soient tachetés. Enfin, vous lirez ça près de l'abreuvoir. Il faut interroger des éleveurs pour savoir un peu comment il a fait. Alors, un beau jour, une fois fort d'une fête, il réussit à persuader ses deux femmes et ses deux servantes aussi de partir. Alors, il profite de ce que Laban, son beau-père, est parti à la tonte de ses brebis. Et Jacob, alors, s'enfuit. Laban poursuit Jacob. Et savez-vous pourquoi on appelle ces montagnes, qu'on voit de l'autre côté la dépression du Jourdain, les montagnes de Galaad? Eh bien, c'est parce que c'est là que Laban a rattrapé Jacob. Et ils se sont engueulés copieusement. C'est fatigant de s'engueuler. Alors, ils ont fini par se réconcilier. Ils ont fait un tas de cailloux, Galaad. Et puis, ils ont cassé la croûte sur le tas de cailloux. Et puis ensuite, alors, ils sont séparés. Jacob a repris la route et puis Laban la sienne. Alors on commence ici la cassette numéro 15, et on continue le jour 12. Et cette journée est intitulée « À la recherche du culte en esprit et en vérité par la route des sanctuaires ». L'itinéraire a été quelque peu modifié à cause des circonstances, et puis aussi parce que quand j'enregistrais ces cassettes, j'ai intégré ça dans une route qu'on faisait vers la Galilée, pas par la route où on passe actuellement par la BST. C'était une des journées les mieux construites autrefois, avant qu'on ne soit obligé de faire des modifications. On quittait Jérusalem en passant par le mont Scopus, et on contemplait Jérusalem dans la belle lumière du matin. Et puis ensuite on allait vers cette colline qui était la capitale géopolitiquement la mieux placée pour devenir capitale de la région, là où les Benjaminites avaient fait leur capitale, parmi les épaulements de Benjamin. Et vous rappelez la prédestination de la tribu de Benjamin, et puis cette lutte des montagnes, les montagnes jalouses du nord, les montagnes de Bashan, et Dieu dédaigne ces montagnes, et comme il a dédaigné aussi les montagnes du sud, là, rappelez-vous le jeu de mots, ce n'est le buisson, Sinaï, la montagne ardente, embrasée par le feu comme le buisson, et puis Sion. Et il cherche sa demeure dans son humilité, l'humilité de Dieu, parmi les épaulements de Benjamin, et même il ira chercher pour finir le lieu qu'il a fait habiter son nom, Ammakom chez Bararbo Elohim, qui était le Shaken et Shemo Sham. Il ira le chercher parmi la plus basse des collines de Benjamin, une colline elle-même entourée de montagnes, Jérusalem, que des collines entourent. Et puis alors ensuite on allait à Bethel, et puis on assistait là à cette contestation que font les prophètes, comme Amos par exemple, de quelque chose de pire que l'idolâtrie, pas dans la ligne de cette recherche du culte en esprit en vérité. On voyait comment les prophètes, comment la foi et les prophètes purifiant la religion qui peut être très ambiguë, l'amènent petit à petit au culte en esprit en vérité. Ensuite on passait à Silo. Alors Silo, ça ne le cherchait pas dans cette journée-là, je l'ai récupéré le dernier jour et vous allez voir que ça vient beaucoup mieux. On assistait à une des plus grandes crises de l'histoire sainte lorsque l'arche d'alliance a été prise. Ensuite on allait jusqu'à Sichem. On descendait bien sûr dans le puits de Jacob, mais on montait surtout sur une montagne qui s'appelle le Djebel Kabir. Et on voit alors tout le paysage, les Baals, le Garizim, Sichem, et puis le Wadi Farah qui descend vers le Jourdain. Et quand le temps est clair, on voit jusque les montagnes de Galaad. Et puis ensuite, on revenait en empruntant une route stratégique qui a été faite, là, qu'on appelle la route Alon, et qui prend perpendiculairement tous les canyons qui se creusent en descendant de la ligne de partage des eaux vers la dépression du Jourdain. Et on terminait par les paysages très impressionnants du Wadi Kelt. Alors, vous retrouverez tout ce qu'on dit là inscrit dans ce paysage-là. J'ai gardé le thème fondamental à la recherche du culte en esprit, en vérité, par la route des sanctuaires. Alors, actuellement, on commence toujours par le mont Scopus, et puis ensuite on va vers ce Givat Shaul, la capitale de la tribu de Benjamin, là, et on rencontre là aussi tout un milieu d'effervescence charismatique, et beaucoup actuellement prennent le point de départ de leur recherche du culte en esprit, en vérité, dans l'expérience charismatique, et c'est intéressant d'interroger la mémoire du passé sur ce genre d'expérience qui n'est pas nouveau. Et puis ensuite, on descendait rejoindre cette route stratégique, là, et on donnait rendez-vous au prophète Jérémie, hein, dans le Wadi Kelt, qui est probablement le Nahal Perat, là où Jérémie va cacher sa ceinture. Et on entendait aussi Jérémie contester le culte du temple, là, et avec la foi. Encore une fois, la foi, hein, il ne faut pas y opposer bêtement la foi et la religion, mais la foi, la religion peut être ambiguë, l'idolâtrie c'est de la religion. Et la foi purifiant la religion mène au culte en esprit en vérité. Et alors on interrogeait Jérémie dans le Nahal Perat, la loi dit Kelt. Et alors ensuite, alors on allait à un point de vue accessible par cette route stratégique, et avec un peu de chance, quand il fait beau, ce point de vue s'appelle Korav Asharar. On voit depuis les environs de Bethel, là où Jacob fait l'expérience de l'échelle, et puis on voit jusqu'aux montagnes de Galaad, aux environs, et puis la vallée du Jourdain, aux environs de l'endroit où le Jabbok qui sort des montagnes de Galaad vient se jeter dans le Jourdain. Et puis on évoque un personnage très important qu'il faut rencontrer, qui est aussi un grand maître en spiritualité, Jacob. Et je crois qu'on était justement en train de parler de ça à la fin de la bobine précédente de Galaad. Alors j'enchaîne à partir des montagnes de Galaad, et puis on va rencontrer Jacob, et on va voir comment il va mériter son nom d'Israël. Tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. Et savez-vous pourquoi on appelle ces montagnes qu'on voit de l'autre côté de la dépression du Jourdain les montagnes de Galaad ? Eh bien, c'est parce que c'est là que Laban a rattrapé Jacob, et ils se sont engueulés copieusement. C'est fatigant de s'engueuler. Alors, ils ont fini par se réconcilier. Ils ont fait un tas de cailloux, Gal-Ed. Et puis ils ont cassé la croûte sur le tas de cailloux, et puis ensuite, alors ils sont séparés. Jacob a repris la route, et puis Laban la sienne. Et le sujet principal du débat, c'est que Laban accuse Jacob d'avoir emporté les idoles domestiques. Alors Jacob dit, moi ça m'intéresse pas, bah, les idoles cherchent, tu verras bien que personne... Alors il y a un suspense ici, Laban, d'abord dans la tente de Rachel, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et c'était Rachel qui avait pris les idoles domestiques. Elle les avait mises dans le palanquin du chapeau et s'était assise dessus. Une critique fondamentale de l'idolâtrie, on peut dire. Laban fouille en toute la tente, ne trouve rien. Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne voit pas avec colère que je ne puisse me lever en ta présence, car j'ai ce qui est coutumier aux femmes. Laban chercha et ne trouva pas les idoles. Oui, comme critique de l'idolâtrie, c'est assez lourd, mais enfin, c'est radical, c'est fondamental. Alors, c'est à ce moment-là, c'est Jacob qui se met à engueuler Laban, et puis on se sépare. Ramasser des pierres. Ils ramassèrent des pierres, ils en firent un monceau, ils mangèrent là sur le monceau. Laban le nomma Yegar Shahaduta, il parle araméen, et Jacob le nomma Gal-Ed, d'où les montagnes de Galaad. Alors, des montagnes de Galaad que vous voyez là-bas, sort un fleuve qui s'appelle le Jabbok, dont nous avons déjà parlé. Rappelez, les Hébreux, quand ils sortent d'Égypte, font pas la guerre à Édom et à Moab. Moab a été dépossédé par les Amorites, là, au nord de l'Arnon, et ils conquièrent, après avoir fait la guerre à Og, le roi des Siron, le roi des Amorites, et Og, le roi de Bashan, ils conquièrent toute la région qui se trouve entre l'Arnon et le Jabbok. Alors, le Jabbok, on en parle dans l'histoire de Jacob, parce que c'était une route secondaire, comme ça, et Jacob, c'est par là qu'il part, c'est par là qu'il revient, probablement. Quand il fait bien clair, là, on voit une traînée verte qui rejoint le lit du Jourdain, et puis alors, c'est une route, hein, on traverse le Jourdain au pont de Damier, là, et puis de l'autre côté, on trouve Wadi Farah qui monte vers Sichem, en faisant le tour d'une montagne qu'on appelle Jebel Kabir, là. Alors, Jacob apprend que son frère Ésaü, vous vous rappelez qu'il s'était enfui parce que son frère Ésaü voulait le tuer. Et il apprend maintenant qu'Ésaü vient à sa rencontre. Alors, il s'arrange pour attirer les bonnes grâces d'Ésaü. Il organise des tampons, si vous voulez, il envoie des cadeaux devant. Et puis cette même nuit, il se leva. Vous voyez, toute l'histoire de Jacob s'inscrit entre deux visions. C'est l'échelle de Jacob et puis la lutte avec Dieu. Et ici, nous sommes entre Bethel, qui est là-bas à gauche, hein, et puis le Jabbok. Et tout se passe, alors ici ça se passe, cette lutte avec Dieu, au Jabbok. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, avec tout ce qu'il possédait, et il resta seul. Et quelqu'un, qui ne dit pas son nom, comme au buisson ardent, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. C'est le patron de ceux qui souffrent de sciatique. Il dit, lâche-moi car l'aurore est levé. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu me mets béni. Il demanda, quel est ton nom ? Jacob, répondit-il, hein, ce nom qui connote tellement de choses péjoratives. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. On t'appellera Israël, et quand on décompose le mot étymologiquement, alors tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Et ce nom est gros de signification. Et Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom ? Et là même, il le bénit. Et Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel. Panim, c'est la face. Et elle, c'est Dieu. C'est comme s'il avait vu la face de Dieu. On retrouve une fois de plus ce thème fondamental, voir celui qui nous voit. Penuel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Ensuite, il va vers son frère Ésaü. Il vit qu'Ésaü arrivait. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel, les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Et lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou, l'embrassa en pleurant. Et lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes, les enfants, il demanda « Qui sont tous ceux que tu as là ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent Léa, Rachel, Joseph. Il demanda, que veux-tu faire de tout ce que j'ai rencontré ? C'est utile pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Jacob dit, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. Écoutez cette phrase maintenant. J'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu et tu m'as bien reçu. Vous voyez, Israël, affronter Dieu, affronter l'autre. et il n'y a pas de lutte qui ne soit possible, parce que toutes les réconciliations sont possibles. Lutter contre Dieu, lutter contre l'autre, et puis affronter, et au fond ça rejoint ce que Jésus dira, les deux commandements qu'on a entendu à propos de la parabole du bon samaritain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, ces deux commandements n'en font qu'un. Et c'est une religion d'affrontement, c'est pas une religion d'évasion. Dieu nous attend justement dans des choses impossibles, mais si on va chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu, alors ça devient possible. Vous sentez dans ce mot d'Israël. Alors ensuite, Ésaü va accompagner Jacob. Jacob n'a pas tellement envie. Et alors, Ésaü se sépare et Jacob continue sa route. Et puis, après avoir traversé le Jourdain, aux environs du pont de Davier, Adam, eh bien, il enfile Wadi Fara et il arrive à Sichem. Vous voyez, et alors, l'histoire, là, comme Abraham, il a dû suivre la même route. Et à Sichem, alors, il campa en face de la ville. Il acheta une parcelle de champ et il érigea un hôtel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Et c'est dans ce champ que devait se trouver le fameux puits de Jacob.